sommes entre Loire et Loin, c'est l'heure du magazine du Gâtinais. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous écouter sur ces deux ailes. Alors nous avons fait une petite pause hivernale côté radio, mais bon, vous avez continué à pouvoir suivre nos aventures sur les réseaux et notamment sur notre page Facebook. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez, où vous êtes nombreux à avoir vu qu'on organise bientôt des choses, notamment samedi prochain. On vous donne rendez-vous à partir de 11h à la médiathèque de l'AME. Donc le 19 février, la médiathèque de l'AME, c'est celle qui est place du Paty. Hein. C'est pour une émission spéciale qu'on va enregistrer en public, avec vous donc, en compagnie de François Bégodeau, écrivain, cinéaste, animateur de télé. François Bégodeau, à qui vous pourrez venir poser toutes vos questions à la médiathèque de l'AME. Il sera aussi l'après-midi, à partir de 14h30, il sera au Vox à Châteaudun pour une projection de son documentaire. On compte sur vous donc samedi prochain. 11h, pardon, à la médiathèque de l'AME pour une émission enregistrée en public. Le sommaire du jour, nous avons rencontré Catherine Armesen, une écrivaine qu'on connaît bien dans la région et qui est venue nous parler d'une aventure un peu singulière avec un album, un conte, illustré par Jean Trubert. Vous en saurez plus tout à l'heure. Nous sommes allés nous balader du côté de Triguère pour assister à une séance de cinéma itinérant, du cinéma dans mon village, c'est un peu partout dans le Gâtinais, vous verrez avec le Vox. Nous évoquerons les concerts organisés par l'association Mille et une fêtes au Bellman, et c'est Eric Demps, son président, qui nous en dira un petit peu plus. Nous parlerons de la nouvelle marque lancée par le Conseil Régional Centre Val-de-Loire Rénovation pour une meilleure performance énergétique des habitations. C'est François Bonneau, le président de la région, qui nous en dira deux mots. Et enfin, nous parlerons de la Journée internationale de l'épilepsie qui a lieu lundi prochain, 14 février. Mais on va commencer avec un petit peu de musique. A tout de suite sur ces deux ailes.
Thank you.
Nous sommes entre Loire et Loin. Merci de nous écouter sur ces deux ailes. 650 000 personnes en France sont touchées par une maladie neurologique, pourtant assez méconnue du public. C'est l'épilepsie. Eh bien, l'épilepsie, parlons-en. C'est le but de la Journée internationale de l'épilepsie qui a lieu chaque année le 14 février, lundi prochain donc. Et c'est Philippe Moreau, le délégué de l'association Épilepsie France, qui nous en parle au téléphone, interrogé par Patrice Avzar.
Le 14 février, c'est la Saint-Valentin, ça on le sait, mais... pour l'épilepsie, c'est une grande journée également.
Oui, effectivement, c'est une grande journée, car c'est la journée internationale de l'épilepsie, donc qui a lieu toujours les deuxièmes lundis de février. Et nous sommes en même temps que la Saint-Valentin. Mais ce que personne ou peu de personnes savent, c'est que le patron Valentin est aussi le patron des maladies neurologiques.
Beaucoup de personnes en France sont atteintes par l'épilepsie. Et dans le Loiret, si vous avez les chiffres?
Alors, au niveau national, on a à peu près 650 000 personnes atteintes d'épilepsie. Il faut savoir que l'épilepsie, c'est la deuxième maladie neurologique, beaucoup plus fréquente que la migraine, par exemple. Et en France, dans le Loiret, on estime à peu près 6 000 cas, si on garde les mêmes indices. Donc, c'est vraiment une maladie qui touche beaucoup, beaucoup de personnes.
Oui, une maladie, comme vous dites, qui touche beaucoup de personnes, mais on n'en entend pas spécialement beaucoup parler non plus.
Non, tout à fait, vous avez entièrement raison, et c'est tout le sens de cette action pour l'épilepsie, c'est aussi faire connaître l'épilepsie, parce que bien souvent, on catalogue l'épilepsie à des convulsions, une personne qui tombe et qui convulse dans tout son corps, donc qui convulse dans toutes les choses, dans tous les sens. Mais l'épilepsie, c'est aussi d'autres formes, et c'est une particularité de cette maladie, donc qui peuvent être des crises focales, c'est-à-dire qu'avec des troubles qui peuvent être auditifs, du langage, des troubles visuels, oléofactifs ou moteurs. Parfois, et chacun a dû faire au moins une fois cette expérience dans sa vie, on voit quelqu'un dans la rue et qui semble totalement absent. Donc on imagine des fois des choses, bien, celui-ci a dû consommer de l'alcool ou autre, et parfois pas du tout. C'est une forme d'épilepsie qui génère cette absence de la personne sans que celle-ci tombe. Donc on doit changer ce regard lorsque vous en avez aussi la connaissance.
Et l'épilepsie, ça touche les jeunes, les personnes âgées, toute la catégorie, toute personne?
Alors, j'allais dire 50% des cas de l'épilepsie débutent dans l'enfance, c'est-à-dire avant l'âge de 10 ans. Mais en revanche, comme ce que je vous disais, on a à peu près 50 formes distinctes d'épilepsie, on s'aperçoit qu'on peut faire une crise d'épilepsie à tout âge, et on constate de nouveau une augmentation lorsqu'on devient senior, où le taux de déclenchement d'épilepsie se met à augmenter. Donc il n'y a pas de... Malheureusement, sur cette maladie, c'est une des grosses problématiques. Il n'y a aucune certitude.
Il n'y a pas de signe avant-coureur pour savoir, pour se dire, tiens, cette personne a l'épilepsie, si ce n'est, comme vous dites, des absences ou autres?
Non, parce que, comme je le disais, on dénote plus de 50 formes, donc on n'a pas une alerte très, très caractérisé. Par exemple, moi, et en plus, l'épilepsie est évolutive. Donc moi, je suis papa d'un enfant épileptique. Et au début des crises d'épilepsie, donc on voyait la crise arriver parce qu'il y avait un déclenchement focal. Donc on voyait qu'il se passait quelque chose. Alors que 10 ans après, lorsqu'il fait une crise d'épilepsie, il tombe directement en perte de connaissance par terre. Donc c'est des maladies qui sont évolutives et qu'on n'arrive pas bien à segmenter.
Il y a des traitements pour pouvoir combattre l'épilepsie?
Oui, il y a des traitements donc qui sont bien souvent des traitements couplés avec différentes molécules. Et qui permettent de compenser cet orage électrique, parce qu'en fin de compte, c'est un orage électrique que vous avez dans le cerveau. Et ces médicaments, qui sont des traitements lourds et qui ont aussi des incidences sur la vie quotidienne, où vous avez beaucoup de fatigue, des difficultés parfois à vous concentrer. Donc c'est vraiment un traitement très très lourd par rapport à ceci. On a quelques épilepsies qu'on peut opérer. C'est une opération assez délicate parce que, comme vous imaginez, on touche directement dans le cerveau. Mais ce n'est malheureusement pas la majorité des cas. Et on s'aperçoit qu'on a beaucoup de patients qui sont pharmaco-résistants. C'est-à-dire que malgré les traitements qu'on peut donner, eh bien les crises continuent de subvenir sans qu'elles soient bien régulées.
C'est quelque chose qui peut se guérir rapidement malgré tout quand on est atteint, un jeune est atteint, ou est-ce qu'il le traîne malheureusement, on va dire, toute sa vie?
Malheureusement, dans la majorité des cas, c'est une maladie qu'on a à vie. Alors qu'on arrive après à appréhender, mieux appréhender avec les médicaments, mais c'est quelque chose qui vous suit. Parfois, on a des cas comme ça où tout cela disparaît, mais ce n'est pas la majorité. Et c'est très rare.
Donc, ce 14 février, la Saint-Valentin, on va parler de l'épilepsie, et ça va se faire comment pour le Loiret?
Alors, le Loiret, moi je suis le représentant donc, de l'association Épilepsie France, et l'antenne du Loiret a d'abord sollicité l'association des maires du Loiret. Donc moi-même étant maire de Nogent-sur-Vernisson, j'ai demandé à mes collègues de mettre un signe sur leur bâtiment public en les illuminant de violet ou autre, et j'ai eu plutôt une bonne écoute grâce à la présidente de l'association des maires du Loiret. On devrait avoir à peu près plus de 100 mairies illuminées pour soutenir cette action ponctuelle, mais c'est surtout pour faire connaître la maladie, faire connaître l'association et tout ce qu'on peut apporter et aider aux personnes qui sont épileptiques.
Des actions prévues en direction du grand public?
Oui, on fonctionne aussi sur rendez-vous, c'est-à-dire qu'on a un mail, donc c'est 45@epilepsie-france.fr, où après on donne des rendez-vous personnalisés suivant la problématique de la personne, donc soit pour défendre leurs droits, soit pour les soutenir, soit pour les informer, soit pour les conseiller. J'ai la chance d'être accompagné par une neurologue, Doniana Joub, donc qui nous aide sur certains problèmes, parce que nous, on n'est pas médecin, mais qui nous aide et qui nous permet de donner les bonnes directions aux différents malades. Et fin août, donc nous faisons une grande convention à l'Arboretum des Bars avec une conférence avec des neurologues pour parler de l'épilepsie et j'allais dire d'en parler librement sans stigmatiser les personnes qui en souffrent.
Parce que justement, oui, quand vous dites ces personnes qui en souffrent, elles ont du mal à en parler?
Oui, vous savez, c'est le problème de l'épilepsie, c'est un handicap dit invisible. Malheureusement, lorsque vous avez lorsque vous êtes en fauteuil, on voit que vous êtes handicapé et on imagine qu'il y a toujours une bienveillance de la part des gens. En revanche, lorsque vous avez de l'épilepsie et que vous croisez quelqu'un sur le type de crise que je vous ai évoqué, où c'est par exemple une absence où la personne fait des choses inconsidérées, eh bien, en fin de compte, ça fait peur. Et dès que vous avez de la peur, vous avez une forme de rejet et ça devient très difficile pour les malades épileptiques qui sont en plus stigmatisés.
Oui, donc à ces personnes, vous leur dites, n'hésitez pas à contacter l'association, elle est là pour vous aider.
Exactement. Et on se rencontre, on fait des cafés rencontres, on partage. Et ben, lorsqu'il y a besoin d'un soutien ou autre, et ben, voilà, l'ensemble du groupe fait de la bienveillance pour tous.
Le petit mot de la fin, donc vous pouvez nous redonner les coordonnées de l'association, le contact départemental ?
Absolument. Donc Philippe Moreau, et c'est 45@epilepsie-6france.fr. Et là, pour conclure, je dirais l'épilepsie, bah, tout simplement, parlons-en ensemble pour le bien de l'ensemble des malades. Rolling up the vote, I took my Benson. England's blowing smoke and needs attention. Could use a lick of paint to change a color before they send us back across the water. Think I got a neighbor that's been feeling blue, but they won't stand down no matter what you say or do. How'd you learn to love if you're not taught to? You dream of freedoms on a curfew. Paying the price to live in our skin is wearing me thin. Who's got love for the taking? Who's got a heart for the aching? No such thing as a kingdom when tomorrow's done for the children. They chop it up and divide. So meet me at the borderline. Of a nation, breaking up the euros at the station, visiting the bank for bread and butter. Don't want to see no doctor when we suffer. Think I got a neighbor that's been feeling blue, but maybe that's a symptom. Fucking with a kingdom that never fought for you.
Nous sommes toujours entre Loire et Loin. Merci de nous écouter sur C2L, comme chaque samedi à 10h et tous les jours en vidéo sur les réseaux, sur notre page Facebook Entre Loire et Loin, où vous pouvez vous abonner, commenter, liker, partager, discuter avec nos invités, comme par exemple avec Catherine Armesen, une écrivaine de la région qu'on connaît bien dans le Montargois et au-delà. Nous l'avons rencontrée parce qu'elle avait une aventure à nous raconter, un projet assez singulier autour de dessins de Jean Trubert, un fameux dessinateur de BD de l'après-guerre. Elle nous raconte ça au micro de Sandrine Manteau.
Chers amis d'entre Loire et Loin, on se retrouve ici dans ce magnifique lieu qui est l'atelier de confection et d'exposition de notre amie Agnès Frattini, qui est tapissière et artiste. Et on nous prête ces sièges de création à Catherine Armesen et moi-même pour pouvoir parler du dernier opus de Catherine. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre que tu as entre les mains, Catherine ?
Alors ça, c'est une commande et c'est la première fois qu'on fait une commande de ce genre. Il se trouve que ce livre m'a été demandé par Chantal Truber. Chantal Truber, c'est celle qui me... C'est mon éditrice de contes pour enfants. Et elle est la fille de Jean Truber. Jean Truber, dont tu vas peut-être nous dire quelques mots, parce que je sais que tu fais toujours beaucoup de recherches. C'était quelqu'un de très bien. C'était un illustrateur, un dessinateur plutôt, du début du XXe siècle. Une personnalité tout à fait étonnante et un artiste talentueux.
Alors, que t'a demandé ton éditrice ? Elle a retrouvé des planches originales. Voilà. Pour une bande dessinée, mais il n'y avait plus de texte.
C'est exactement ça. Elle m'a appelée un jour en me disant, écoute, voilà, en fouillant les cartons de mon père, j'ai trouvé une bande dessinée qui n'était pas, qui n'est pas du tout enrichie de texte. Est-ce que tu veux bien t'en occuper ? Je lui dis, écoute, je ne sais pas, envoie-moi déjà les planches, je verrai si ça fait germer en moi quelque chose. Elle m'a envoyé les planches et ma première réaction, c'était de me dire... On ne peut pas en faire un conte pour enfants. Les dessins sont quand même d'une autre époque, mais une époque tellement délicieuse, tellement fantastique. Et je me suis mise à regarder les détails. Et puis après, je suis allée sur Internet, comme tout le monde, pour aussi essayer de trouver ce qui avait poussé Jean Truber à faire ce genre de choses, puisque c'est quand même une histoire qui se passe sous l'eau, quelque chose de très onirique pour un dessinateur comme lui, qui était... en particulier impliqué dans des projets comme Bécassine, c'était un petit peu curieux. Et là, je me suis aperçue que la richesse des dessins, c'était dans les détails. Et j'ai vraiment plongé, moi aussi, plongé dans son univers. Et puis les personnages sont venus. Et l'idée m'est venue de faire un conte complètement décalé, un peu métaphorique, plutôt pour adultes ou adolescents. Oui, adolescents, je pense que ça peut les intéresser aussi. Alors j'ai appelé Chantal, je lui ai dit écoute moi je veux bien mais à condition que tu me laisses changer l'ordre des planches. Elle m'a dit fais à ton idée. Alors évidemment j'étais pas le seul auteur qu'elle avait sollicité et elle a choisi mon texte parce que justement il était décalé et un peu dingue. Moi, si vous voulez, je vous en lis un tout petit extrait, si vous voulez.
Mais... Alors, écoute, Catherine, j'aimerais quand même qu'on parle 2 minutes de Jean Truber, parce qu'il faut vraiment que vous vous rendiez compte que c'était un grand monsieur de la bande dessinée, Jean Truber. Il est né au début du siècle, en 1909. Il est mort en 1983. C'est un type qui avait fait les arts appliqués, qui a commencé dans la publicité et parallèlement à une étrange carrière, ça je l'ai noté parce que c'est drôlement mignon, une carrière de boxeur professionnel. En fait, il a travaillé de 30 à 80 avec une dizaine de magazines qui sont très connus. Il y a eu Tintin, il y a eu Vaillant. Comme tu le disais tout à l'heure, il a repris le personnage de Bécassine. Et puis pour Pilote, il a créé un personnage dont certains se souviendront, moi en l'occurrence, je m'en souviens très bien. Un personnage qui s'appelle Roderick et ça se passait au Moyen-Âge, une sorte de petit personnage très mignon avec un petit casque noir sur la tête, un petit casque de cheveux noirs. Il a également illustré le roman de Renard. Encore deux petites infos qui me paraissent intéressantes. Il s'est syndiqué après la Seconde Guerre mondiale. Il a représenté le syndicat des illustrateurs pour jeunesse, en l'occurrence. Et en 63, il a obtenu pour les dessinateurs d'être reconnu en tant que salarié et obtenir aussi la sécurité sociale. Voilà. Dernière chose, il a fait partie du collège de pataphysique. Et au sein du collège de pataphysique, il n'était pas satrape. Que nenni, il était régent et il s'occupait de la machine à peindre. Voilà. Alors, on vous rappelle que le collège de pataphysique, c'est la société de recherche savante et inutile. À toi.
Mais écoute, tu as très bien rendu hommage à ce monsieur. Que dire après toi? C'est difficile.
Tu nous lis un extrait.
Okay, je vous lis un peu mon délire alors. Ouais. Alors, un des personnages de la bande dessinée est une cantatrice. Elle s'appelle Mademoiselle. Enfin, moi, je l'ai appelée Mademoiselle Pompon. Mademoiselle Pompon, la reine de la fête, fit son entrée. Belle, blonde, coiffée d'un béret de marin qui lui donnait un air canaille. Fippo n'avait Dieu que pour son collier. Elle l'avait fabriqué elle-même, enfilant sur un long fil d'imagination ses désirs les plus fous. Le tout réalisait un sautoir qui mettait en valeur son sourire. Sous le charme de la cantatrice, l'assemblée se fit nostalgique. Tous se souvenaient de son dernier concert donné dans la plus grosse des baleines de la région. Charmé, le monstre avait ouvert la bouche, laissant ses fanons s'effacer en rideaux de théâtre, et l'on avait vu jusqu'au plus profond de son gosier ce qui avait fait rougir les coraux.
Oh.
Et là, je peux vous dire que je me suis beaucoup, beaucoup amusée à faire cela. Toutes les pages étaient, toutes les planches m'ont inspiré quelque chose. J'étais vraiment heureuse de faire ça. Voilà. Donc c'est une aventure. Je ne sais pas si elle se reproduira. Enfin, je sais que inspirée ma jeune illustratrice qui s'appelle Camille Digarcher, qui est une fille très très talentueuse et qui a recolorisé certaines des planches. Du coup, m'a demandé d'illustrer des planches qu'elle avait faites, inspirées par le Japon. Et je me suis dit, en fait, c'est une nouvelle façon de travailler avec l'illustratrice. Habituellement, lorsque je fais un conte pour enfants, je le bâtis et l'illustratrice répond à ma demande. Et bien là, pourquoi ne pas faire l'inverse, ne pas aller dans l'univers de l'illustratrice et lui rendre hommage par les mots. Et finalement, ce va-et-vient me paraît très intéressant. Alors, on va essayer avec Camille.
Et ben, une dernière chose, moi, je rends hommage toujours à la musicalité de la voix de Catherine Armesen. C'est toujours un plaisir de t'entendre lire. On l'a dit, c'est comme des perles. Alors, l'ouvrage, c'est le Féerique Plongeon de Fippo, c'est ça?
Voilà, en édition limitée quand même, il faut le dire, puisque c'est un projet particulier, un projet Ulule. Hein, je ne sais pas si vous connaissez ces projets que Chantal a fait, parce qu'en fait, ce qu'elle voulait, c'était rendre hommage à son père, elle l'a fait dans beaucoup d'ouvrages. Et c'est une femme extraordinaire. C'est une belle personne et elle est très intelligente et elle a fait beaucoup, beaucoup pour son père, pour la mémoire de son père. Et elle vous en dirait plus que je ne peux le dire. Mais voilà.
Je pense que germe en moi l'envie d'une rencontre avec elle, avec toi, avec des projections des illustrations de son père. On vous donnera rendez-vous. Ça devrait se faire un de ces quatre au Vox, je pense, Monsieur Weber. Merci à toi, Catherine.
Merci beaucoup, Sandrine.
Catherine Armesen a plusieurs ouvrages, hein, des romans, des contes pour enfants, plein de choses. Et vous pouvez la rencontrer cet après-midi à Ferrières. Elle sera à partir de 15h en dédicace à la boutique des créateurs, art, etc. C'est rue du Mar 3 à Ferrières. On y sera aussi en balade. Donc, on se voit là-bas. Hein. Allez, pause musicale et on se retrouve pour parler concert avec l'association Mille et Une Fêtes. À tout de suite. Je te donnerai.
Bonjour, je suis Maître Lemoine de la Chambre des notaires du Loiret. J'ai le plaisir de vous retrouver chaque jour dans la chronique du notaire sur C2L Radio. Je réponds à toutes les questions qui sont transmises à l'adresse de la radio contact@c2l-radio.fr. À très bientôt sur C2L.
Salut à tous, c'est Clad Rock avec Charlie. C'est une sélection des meilleurs rocks internationaux servis sur un plateau rien que pour vous. Du prog au métal en passant par toutes les tendances. C'est du rock qui parle autant au cerveau qu'aux jambes. Le frisson en plus. Rendez-vous chaque lundi de 21h à 22h et chaque jeudi de 22h à 23h sur C2L Radio, bien sûr.
Les plus gros classiques du hip-hop R&B sur C2L Radio dans Hip-Hop sur Loin. Retrouvez-nous tous les vendredis de 21h à 22h, tous les mardis de 23h à minuit pour une sélection 100% old school en compagnie de Johan et Younes. Le meilleur des années cultes du hip-hop à ne surtout pas manquer sur C2L Radio.
C2L.
C2L Radio.
Amis d'entre Loire et Loin, bonjour. Est-ce que vous avez repris le chemin des salles de concert? C'est ce qu'on se demande avec mon ami Eric Dems de Mille et Une Fêtes. Et ça nous fait un petit peu peur, mais on reste optimiste pour la suite des événements. Raconte-nous, Eric, ben, ton désarroi.
Ça démarre tout doucement, tout doucement. Le premier concert de janvier, ben, y avait pas beaucoup de monde. C'était Marc Longchamp et avec trois musiciens vraiment hors pair. Dommage parce que d'habitude, on fait 150 personnes, par exemple. Et là, on a fait 42 personnes.
Oui, ça s'appelle se prendre un bouillon.
Voilà, on prend un bouillon et ça nous coûte cher. Bon, alors, le prochain, ça sera début février. Mais on l'a annulé parce que là, ce n'est pas le contexte du tout pour le faire. Étant donné qu'il s'agit de deux stars de la musique manouche. Et on ne voudrait pas qu'il se plante avec une salle clairsemée, quoi. Donc on l'a repoussé au mois de septembre pour avoir un peu plus de sûreté, quoi.
Bon alors, donc, en deux mots, on oublie un peu le Tivoli pour Mille et Une Fêtes.
Bah ouais, c'était au Tivoli. Oui.
N'oublions pas que Mille et Une Fêtes, c'est une association, ce sont des citoyens qui prennent 100% de risque quand ils vous proposent un spectacle. Alors, on va revenir sur la programmation. C'est d'autant plus compliqué que Mille et Une Fêtes, au niveau des finances, se repose habituellement sur l'organisation de spectacles, un petit peu plus grand public pour les municipalités, entre autres. Et donc, à l'heure actuelle, eh ben, les municipalités, elles ont peur. Elles se disent, on est encore en période Covid et il va falloir, on va attendre un peu pour organiser des choses. C'est ça qui se passe, Eric.
Oui, elles sont bien timides en ce moment.
Elles sont bien timides.
Alors, bon, on a une chose à faire au mois de juin. D'habitude, on a un carnet qui n'est pas rempli, mais bien rempli quand même. Et là, pour l'instant, on n'a rien. Voilà, pas grand-chose.
En sachant que Mille et Une Fêtes, donc, sont des concerts qui sont majoritairement jazz et blues et puis rock. Et puis par contre, quand Mille et Une Fêtes propose des spectacles pour les municipalités, ça peut être des spectacles de cabaret, ça peut être des spectacles aussi de world music, c'est ça?
Oui, alors mes concerts, c'est toutes les musiques. Hein. Il n'y a pas que du rock et du blues.
Ah, zut, zut.
Tu peux regarder. Hein. On a fait de la musique New Orleans, on a fait de la musique Cajun, on fait de la musique Manouche, on fait de la musique Zigane, on fait un petit peu... là, nous allons avoir le fils de Michel Legrand. Donc, hein, ça c'est du... oui. Ça, c'est du rock.
Je sens qu'il a envie de nous parler de la suite de la programmation, en fait. Donc, ça se passe toujours au Bellman, la plupart du temps, du moins, au Bellman. Et souvent, c'est rempli quand même. Tu étais content avant le bouillon,
septembre, octobre, novembre, on était plein à chaque fois.
Plein à chaque fois.
Et maintenant, bon.
Et puis voilà. Et puis le nouveau variant ou je ne sais pas quoi. Et puis, craque, ça retombe. Alors, le prochain... Paris, c'est jeudi 17 février au Bellman avec le concert de...
Alors, c'est Chic Trio.
Rappelle-nous qui est Chic Trio.
Alors, le batteur, c'est notre ami Benjamin Jouet. Et donc, Hugues Renaud sera le guitariste et Virginie Passot, dont tout le monde va tomber amoureux parce qu'elle a vraiment beaucoup de talent et une belle voix. Donc, ils étaient déjà venus il y a 2 ou 3 ans au Bellman.
Oui, ils sont venus régulièrement quand même.
Oui, enfin, on essaye de les faire venir de temps en temps, quoi. Donc, ça sera pour le 17 février.
D'accord. Ce sont des compos ou ce sont des reprises ou c'est les deux ?
Alors, c'est du rock, pop, variété, jazz, sans élitisme ni snobisme.
Mais voilà, on n'est pas très, on n'est pas élitiste, on n'est pas snob de toute façon, à mille et une fêtes.
Mais par contre, ce sont des très très bons musiciens.
Voilà. Bon, au mois de mars, après, au mois de mars, alors Cotton Bellies, alors ça, je ne connais pas du tout, alors donne-moi envie un petit peu.
Cotton Bellies, bah écoute, ils viennent de faire un CD en Amérique d'ailleurs, ils ont fait une tournée là-bas.
On connaît Yann Malek.
Yann Malek, au chant, à l'harmonica et à la guitare acoustique, et au lap steel.
Waouh, on va découvrir ce que c'est. Hein, parce que...
Il faudrait que je sache parler anglais, mais... Il y a Mick Ravassa à la guitare, Cyril Catouin à la basse et Aurélie Simonet à la batterie. Alors c'est un très très bon groupe, ils tournent beaucoup beaucoup en France, alors peut-être moins en ce moment comme tout le monde, mais c'est un très bon groupe qu'on a plaisir à retrouver aussi.
Bon, on va finir, on vous donne juste, on vous décrit jusque fin mars, c'est-à-dire encore une date, et puis après on vous donnera que les noms et les styles. En tout cas, le jeudi 24 mars, toujours au Bellman, il y aura Nicolas Blancpain et Éric Gombard. Alors, c'est quoi ça ?
Alors, c'est de la guitare acoustique. Ils sont spécialisés dans le picking.
Oula, il y a un gars qu'on faisait venir au Bellman qui s'appelait...
Qui est décédé, oui.
Comment s'appelait-il ?
L'Ukrainien.
Oh, Vitalis.
Vitali Makoukine.
Vitali Makoukine,
oui.
RIP.
Et voilà. Le pauvre, il a une crise cardiaque au cours d'une répétition en Ukraine.
Donc voilà, je pense à ça parce que le picking, il n'y a pas grand monde qui fait du picking.
Il n'y a pas grand monde et vraiment, c'est vraiment deux guitaristes, c'est pareil. On essaye toujours d'avoir des musiciens et des chanteurs d'un très bon niveau.
Il est fier.
Et on y arrive.
Il est fier, Eric Dems, quand même, il est fier. Ça fait combien de temps, Eric, que ça existe ?
Ça va faire 12 ans.
12 ans.
Voilà, qu'on rame un peu pour faire des bons trucs.
Voilà. Il faut vous rappeler quand même qu'il y a 12 ans, quand les concerts de Mille et Une Fêtes ont commencé à Montargis, eh ben, il n'y avait rien, en fait. Il n'y avait rien. Il fallait vraiment combler un vide. Et c'est ce qu'a fait Eric Dems et puis toute sa troupe de bénévoles. Hein. Il faut leur rendre hommage à tous. On est d'accord ?
Une quinzaine de bénévoles.
Une quinzaine qui sont là. Voilà. Et puis après, bon, bah, ça s'est enquillé. Il y a désormais plus de choses, peut-être un petit peu trop de choses à Montargis.
Il y a à peu près deux. Nous, on fait 2 concerts par mois sur Montargis.
Voilà.
Sauf juillet et août, où là, on fait plutôt les festivités dans les communes.
Voilà. Bon. Alors, écoutez, par la suite, au mois d'avril, vous aurez les Cordes à Léon, ça, c'est du Tzigane. Après, il y a West, le groupe West, il n'est plus à présenter, je ne pense pas. Tu as parlé tout à l'heure de Benjamin Legrand, qui va faire un hommage aux musiques de son père, qui habitait Vimory, on vous le rappelle. Et puis, alors, Quartetto Café con Pan au mois de mai. Alors là, je vais vous dire, loupez pas ça. Si vous avez loupé le concert qu'il y a eu au Vox il y a 2 ou 3 semaines, Monsieur Weber, vous l'avez loupé. Alors là, bravo. Alors vous irez, j'espère, voir ça. C'est du pur cubain. En plus, Manu Seguin a une façon de nous présenter ça. C'est absolument extraordinaire. Et puis après, au mois de juin, on terminera sur une nana formidable qui s'appelle Émilie Edoux. C'est du jazz, c'est du blues, c'est de la soul avec une voix extraordinaire. Voilà. J'ai bien présenté ?
C'est bien,
mais je me souviens qu'à une époque, je m'amusais à faire les présentations des concerts.
Oui, bien sûr.
Ça ne nous rajeunit pas ?
Ça ne nous rajeunit pas, mais tu peux continuer à le faire, il n'y a pas de souci.
Donc pour tout ça, il faut réserver.
Alors, il faut réserver. Comment on fait ? On peut réserver, mais si jamais vous n'avez pas réservé, eh bien, alors, il y a un site, hein, c'est 1001fêtes.net, 1001 en chiffres, hein, fêtes.net. Et puis, sinon, on peut te téléphoner, Eric Dems, ou tu préfères...
Non, parce qu'il y a toujours des erreurs quand c'est par téléphone ou par mail. Voilà.
Et puis sinon, bah, vous n'hésitez pas, vous pointez le soir même. Voilà, ça devrait marcher. L'important, c'est que les musiciens aient du public en face d'eux, s'il vous plaît. Merci, Eric.
Merci, Sandrine. très bientôt.
De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo misma no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día. No he querido nunca así, te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré. Con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré.
C2L Radio
89.3.
Nous sommes toujours entre Loire et Loin sur C2L, c'est le magazine du Gâtinais. Merci de nous écouter. Le Conseil Régional vous aide à rénover votre logement et même plus. Et c'est son président François Bonneau qui nous en parle au micro de Patrice Avzard.
Ma région et moi, la chronique du Centre Val-de-Loire sur C2L.
La région Centre Val-de-Loire lance la marque Centre Val-de-Loire Rénovation. Afin d'apporter un service simplifié, accessible et efficace, la région Centre Val-de-Loire lance Centre Val-de-Loire Rénovation, la marque du service public régional de l'énergie. Pour aller vers une rénovation énergétique massive et performante des habitations du secteur privé, la région a initié la création d'un service public régional de l'énergie comprenant notamment une activité d'accompagnement technique des particuliers et de tiers financement avec une offre de prêt direct confiée à une société d'économie mixte. Centre Val-de-Loire Rénovation regroupe deux outils principaux pour simplifier et harmoniser le parcours de rénovation du ménage et l'accompagner de bout en bout. François Bonneau, le président de la région Centre Val-de-Loire.
Annabelle Rénov', Annabelle Centre Val-de-Loire Rénov',
rénovation parce que nous voulons que pour nos concitoyens qui habitent pour certains des pavillons, parfois des pavillons qui n'ont pas une performance énergétique importante, qui consomment beaucoup de gaz, qui consomment beaucoup d'électricité, ça dépend de la source de chauffage. Nous voulons vraiment, vraiment que ces habitants puissent accéder à la rénovation, à la mise en performance énergétique de leur logement. C'est souvent des travaux qu'il faut faire sur la chaudière, des travaux qu'il faut faire sur l'isolation extérieure, des travaux qu'il faut faire sur la toiture, des travaux qu'il faut faire sur les ouvrants. C'est des choses qui sont difficiles à évaluer. Il faut des professionnels, il faut un diagnostic, il faut un conseil. Et l'engagement pour Centre-Val de Loire Rénov, c'est que chaque habitant puisse avoir près de chez lui un lieu dans lequel il va trouver un conseil, dans lequel il va trouver un professionnel qui va lui dire en fonction du type de construction, etc. Voilà ce qu'il faut faire. Par le passé, il y a eu de très mauvaises expériences en la matière. Il y a des gens qui ont mis de l'argent qui n'a pas servi à grand-chose. Parce qu'il y avait des margoulins qui utilisaient un peu le dispositif pour proposer des solutions qui n'en étaient pas. Aujourd'hui, nous voulons sécuriser, donner une information objective, professionnelle, pour que les gens sachent. Et puis, nous voulons aussi aider celles et ceux qui ne peuvent pas investir au niveau nécessaire pour rénover leur logement. Nous le ferons avec une structure de tiers financement, c'est-à-dire une aide de l'extérieur pour le financement, de manière à ce que, avec l'économie d'énergie qui va être réalisée sur le logement, les gens puissent rembourser progressivement l'investissement qu'ils ont à faire. Donc un fort engagement de la région, nous voulons passer à 30 000, à l'échelle de la région, à 30 000 rénovations de logements par an. C'est à la hauteur des enjeux. On a vu la COP, hein, on a vu le problème de la planète, on a vu le problème de la production de CO2. Et bien, si on a un logement, des logements qui sont bien isolés, des sources de chaleur qui sont de qualité, si on a des ouvrants qui fonctionnent bien, des fenêtres, des portes qui fonctionnent bien, qui sont bien isolées elles aussi, on peut très sensiblement diminuer, on peut réduire la facture énergétique de 30, de 40, de 50%. Et pour ça, il faut sécuriser les gens, il faut des conseils, c'est ce que nous allons faire avec ces points d'information qui seront à la disposition de nos concitoyens.
Dernière question, ça sera à partir de quand ?
C'est parti, c'est en route. Là, on va augmenter. On a déjà 9 pôles qui fonctionnent. Il y en a dans le Loiret. On va augmenter et nous voulons que sur tous les bassins de vie, les gens dans la proximité puissent avoir ce conseil.
Et de rajouter que pour être à la hauteur du défi climatique, la région doit soutenir 30 000 rénovations par an. Une ambition qui nécessite une approche globale, articulée et coopérative en faveur de la rénovation de l'habitat privé. Cette ambition, au-delà de permettre de rester dans l'épure de la trajectoire climat, vise des impacts attendus en matière de confort et de pouvoir d'achat, de maîtrise des consommations d'énergie, de valorisation du parc de logements existants, de développement économique et de préservation écologique.
Ma région et moi, la chronique du Centre Val-de-Loire sur C2L.
Nous sommes entre Loire et Loin. Merci de nous écouter sur C2L. Le magazine du Gâtinais, c'est vaste le Gâtinais. Ça fait un paquet de villages. Et une quinzaine d'entre eux se sont lancés ensemble dans une aventure en compagnie du cinéma Le Vox, hein, de Château-Renard, qui est de faire venir le cinéma dans le village. Du cinéma dans mon village, c'est ce qu'ont fait Hervauville, Saint-Hilaire-les-Andrézies, Chantecoq, Gilet-Nonain, Douchy, etc. Une quinzaine de villages du Gâtinais, donc, qui propose régulièrement des séances de cinéma. Nous sommes allés assister à l'une d'entre elles, à Triguères.
Amis d'entre Loire et Loin, bonsoir à tous. Alors ce soir, Pascal Weber a une idée folle, se déplacer de Montargis à Triguères. Mais pourquoi faire, hein, le summum du snobisme peut-être, ou de la curiosité simplement. Monsieur Weber a décidé de venir au cinéma à Triguères. Comment ça? Il y a un cinéma à Triguères? Mais c'est incroyable! Mais alors, Josiane, Karine, Patrick, vous qui êtes élus à Triguères, on ne nous avait pas dit ça! Racontez-nous!
On a la chance d'avoir le cinéma qui vient à nous. Nous ne venons plus au cinéma. Le cinéma s'installe dans notre petite commune et nous en sommes ravis.
Alors voilà le trait d'union en fait de cette aventure quand même entre du cinéma dans mon village, puisque tel est le nom de cette opération, de ce dispositif, et le cinéma Vox, puisque c'est bien le cinéma de Château-Renard qui lance cette nouvelle aventure. Eh bien, c'est lui, c'est Patrick Feufeu qui est élu municipal et qui est l'un des membres fondateurs du Vox, n'est-ce pas, Patrick ?
Tout à fait. C'est une sorte de folie qui nous a pris il y a quelques années. Tu étais avec nous, d'ailleurs, je crois bien. Et donc, cette folie, elle n'en arrive qu'aujourd'hui. Le Vox s'exporte dans les petits villages autour de lui.
Voilà. Et alors, Josiane, vous en êtes satisfaite? Vous êtes contente? Vous espérez bien pouvoir motiver la population?
Oh oui, ça serait très bien si tout le monde pouvait venir au cinéma, surtout dans notre petit village. Ça permettrait aux habitants de bouger un petit peu plus. Ce serait l'idéal.
Voilà, alors la commune de Triguères est l'une des communes qui a compris que le cinéma... évidemment, c'est fait pour rêver, mais c'est fait aussi pour créer des liens. C'est pour ça que quand on est tout seul devant sa télévision ou devant son écran d'ordinateur, c'est vachement moins bien. Et donc, il y a de cela 2 ans, ils ont déjà demandé au Vox de pouvoir faire du cinéma en plein air. Nous, au Vox, on appelle ça du cinéma sous les étoiles. Et aujourd'hui, donc, c'est cette grande première qu'on attendait depuis 1 an. Voilà. Quelque chose d'autre à dire, Karine ?
C'est une grande réussite et là, on a vu un film pour enfants au départ, hein, Tous en scène 2. Mais j'ai mouillé au bien 3 mouchoirs parce qu'un grand écran, ça fait pas... C'est pas comme Netflix, ça n'a rien à voir.
Ça, c'est bien. Ça, on garde ce truc parce que c'est vraiment vrai. Moi aussi, j'ai chialé. Patrick, t'es pas du genre, toi, t'es un cow-boy, tu chiales pas.
Non, mais c'est vrai que c'est très impressionnant et ça amène du baume au cœur de se dire que c'est arrivé dans les villages et que plein de petits, tous les enfants de Triguères et autres vont pouvoir venir voir parce que c'est dans leur village et c'est un grand avantage pour eux, quoi. Ils n'auront pas à courir à Montargis.
Voilà, par exemple. Voilà, on va tout de suite retrouver Joël Riflet, le directeur du Vox, à qui on doit cette aventure, et puis également à Patrick Deskine, qui va être derrière les machines ici. Si, Patrick, ça fait partie de ton boulot, qui est derrière les machines, et ils vont nous expliquer un petit peu tout le dispositif.
Oui, on va faire ça. Quelle est la question ? Eh bien, pour reprendre l'expression de Karine tout à l'heure, et pour reprendre également celle de Lagardère, si tu ne viens pas au cinéma, le cinéma ira à toi. Et donc, c'est ce qu'on a décidé de faire, effectivement, dans une quinzaine de communes, dont Triguères, qui est d'ailleurs la salle pilote de ce circuit itinérant du cinéma dans mon village. Et on est très, très contents, parce que c'est le début, c'est un petit peu stressant, notamment pour Patrick. Au niveau technique, les KDM, c'est-à-dire les clés pour décrypter les films qui arrivent au dernier moment, voilà, des petites choses comme ça. Mais ça va se faire, on va prendre nos habitudes, nos marques et voilà.
Alors, il faut dire quand même que les salles, pour l'instant, on a fait 2 salles, donc Triguères. Et puis, il y a quelques semaines, nous étions à Ferrières, et puis il y a eu Bazoches aussi, Patrick. Viens avec nous, mon petit.
Et nos gens pour des scolaires, pour le mécano de la générale aussi.
Ah voilà.
Ouais.
Et à chaque fois, on est agréablement surpris de voir combien ces salles sont mignonnes et elles donnent un charme supplémentaire à la projection. Elles ont toutes un style différent et c'est toujours agréable. Est-ce que je me trompe parce que j'adore le cinéma ?
Non, je suis d'accord avec ça, effectivement. Mais la salle est peut-être embellie aussi par l'écran, par le projecteur, par les films qu'on y apporte.
Alors Patrick, c'est un matériel pro, hein ? Il faut bien dire que si on fait du cinéma dans les salles des fêtes, c'est avec du matériel professionnel. On ne peut pas avoir un circuit agréé CNC si on n'a pas du matériel, entre autres ce projecteur numérique, qui est une grosse bagnole quand même.
Oui, ça fait son poids. Ça fait son poids. Ça, c'est marrant.
IS 3000.
L'IMS 3000, ouais, l'IMS 3000 qui a eu dans le dans comment le flic de Beverly Hills 3. Voilà. Ça n'a rien à voir, mais non non, c'est vrai que c'est une sacrée machine. Voilà, il fait.
Et alors, il y a aussi un très bon son, hein, je dois te féliciter, il y avait un très bon son aujourd'hui.
Bah, merci, en fait, moi, je fais les réglages qu'il faut par rapport aux films qui ont été choisis par la communauté hier. Et après, c'est à moi de respecter aussi les oreilles de nos spectateurs qui viennent voir le film.
Alors voilà, parce que l'idée, c'est que c'est vraiment une collaboration avec les 15 communes, avec les élus. Nous aussi, ça nous permet de créer des liens et on aime ça et de rencontrer plein de gens. Et ce sont ces élus ou alors, s'ils le désirent, les habitants des villages qui vont choisir les films du mois prochain.
Effectivement, on leur fait, enfin surtout Patrick, puisque c'est Patrick qui est en charge de la coordination de tout ça. Donc Patrick prépare une pré-liste des films qu'il juge les plus intéressants et il propose donc à chacune des communes et chacune des communes après choisit les films. Effectivement, à la fois enfants et à la fois adultes.
C'est une programmation mensuelle. La plupart du temps, quand on monte le matériel, c'est pour deux séances. Une séance pour les enfants, évidemment, comme il s'est passé là. On a regardé Tous en scène, c'est ça, Tous en scène numéro 2. Alors j'ai un petit peu du mascara qui coule parce que moi, ça m'a fait chialer parce que je suis un peu con-con. C'est vraiment magnifique. Et puis ensuite, on a un film, souvent un film grand public, c'est ce qu'ils ont choisi pour l'instant, les gens, qui est un film plus adulte parce que ça va se passer à 20h, évidemment, 20h30.
Et puis, à certains moments, il pourra aussi y avoir des documentaires avec des discussions, avec des intervenants locaux, selon les sorties cinéma qui peuvent arriver, on verra. Et les demandes.
Et les demandes de communes, puisqu'on l'a. Quand j'ai eu l'occasion de visiter les différentes salles, là, en repérage, je leur ai parlé justement de ce projet, que s'ils voulaient faire une soirée de discussion, une soirée de débat autour d'un agriculteur qui habite dans leur village ou d'une profession autre. Il n'y avait pas de problème, on était ouverte à la discussion et qu'on trouve le bon documentaire et puis qu'on anime la soirée, quoi.
Bon, ben voilà, ça vous plaît, Monsieur Weber ?
Et puis, on aura également, la plupart du temps, un petit court-métrage, un petit reportage touristique avant les séances. Alors, ce soir, on n'en a pas parce que le film de Spielberg, West Side Story, fait 2h37. Donc, on zappe pour pas que ça tarde trop après pour aller se coucher. Mais les autres fois, on aura ça également à proposer pour que dans chaque commune, les habitants sachent ce qui se passe ailleurs, sur leur territoire et qu'il y ait des échanges entre populations.
Une dernière chose, Monsieur Weber. Le truc, c'est que moi, je suis évidemment fidèle à mon petit CinémaVox parce que c'est des conditions que je considère comme étant optimales, même si c'est pas la grande technique d'un multiplex avec des super fauteuils de folie, etc. Mais néanmoins, comme je cours un peu partout, cette grande toile qui est déployée comme ça sur le territoire, ça va me permettre de voir le film que j'ai loupé au Vox ou que j'ai loupé ailleurs. Je vais le retrouver dans quelques-unes des 15 salles ou pour mes enfants.
Où est-ce qu'on a le programme de tout ça ?
Ah, le programme de tout ça. On l'a sur le Facebook, on l'a sur le site levox.fr et il y a aussi l'éclaireur qui nous suit. Eux aussi, ils savent pas trop comment faire pour caser toutes ces informations, mais on va y arriver. Le mieux, c'est quand même d'aller sur levox.fr. Oui.
Et puis sur justement le site levox.fr, il y a une page avec un onglet Vox itinérant. On clique dessus, on a la programmation pour l'instant de tout le mois de janvier. Et petit à petit, au fil du temps, les affiches des séances suivantes vont s'ajouter. Donc là, il y a de quoi faire. Et une autre chose importante, c'est que en plus des séances tout public, on va avoir également de nombreuses séances pour les scolaires et pour eux c'est important aussi, ça leur permet de pas avoir de transport en car à payer, ça coûte super cher et là d'être juste à côté de l'école pour aller à pied au cinéma, voir les films soit d'école et cinéma, soit de collège au cinéma, soit des films à la carte selon leurs envies.
Voilà, les tarifs, ils sont tout petits, ils sont tout doux. Ça, c'est notre côté militant au Vox. C'est important que tout le monde puisse s'offrir une place de cinéma. Et puis, quand on prend la carte d'adhérent au Vox, et du coup, on va avoir le tarif adhésion sur toute cette toile, sur toute cette, cette itinérance, et y compris évidemment au Vox. Voilà.
Et une autre chose encore importante, c'est que quand on va dans un cinéma, bah souvent on croise d'autres spectateurs qu'on ne connaît pas, alors que là, quand le cinéma vient de notre commune, si les gens de Triguère vont croiser des gens de Triguère, ah bah t'es là toi, ils vont papoter avant la séance, ils vont papoter après la séance, et c'est fait aussi pour ça, c'est pour créer du lien entre eux et qu'ils aient envie de se retrouver et pas seulement voir un film.
Voilà, je crois que c'est ce qu'ont bien compris de toute façon les communes et les élus des communes qui ont eu envie de ce partenariat avec nous.
Du cinéma dans mon village, des séances de ciné près de chez vous donc, avec le Vox. Et pour en savoir plus, bah, c'est sur levox.fr, tout simplement. Et c'est justement avec le Vox que nous vous invitons samedi prochain, donc le 19 février, à rencontrer François Bégodeau. Il sera au Vox à 14h30 avec son documentaire Autonome. Et auparavant, nous vous invitons à nous rejoindre à la médiathèque de l'AME, place du Paty, à Montargis, à partir de 11h, pour une émission en public au cours de laquelle vous pourrez vous aussi poser vos questions à François Bégodeau. Donc, on vous attend nombreux. En attendant, eh ben, vous pouvez nous retrouver en vidéo sur le réseau et sur notre page Facebook Entre Loire et Loin. Je vous rappelle que le programme des concerts de Mille et Une Fêtes, c'est sur milleetunefêtes.net, que Catherine Armesen est en dédicace cet après-midi à Ferrières à partir de 15h à la boutique des créateurs art, etc. Merci à toute l'équipe, Patrice Avzar, Sandrine Manteau, Anita, JB. Notre adresse email, tiens, si vous avez des petits messages pour nous, c'est entreloireetloin@gmail.com, tout simplement. C'était Pascal Weber au micro et à l'AREA. Merci de nous avoir écoutés. Bonnes semaines à toutes et à tous. À l'écoute de ces deux ailes, bien sûr. À samedi prochain, 10h. Hein. Salut.
Ces deux ailes.